Vous écoutez RMC. RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonsoir à tous. Peu avant 17h, le tour de Jonas Vingegaard s'est arrêté 25 km avant l'arrivée. La journée de repos dans un virage dangereux et très mal signalé. Le deuxième du classement général s'est retrouvé au sol et obligé d'abandonner. Un premier tournant dans la grande boucle qui fera évidemment réagir nos consultants de l'After Tour. La suite de l'étape fut malgré tout passionnante avec la victoire de Remco Evenepoel au nez et à la barbe de Pogacar et Del Toro. Et si les UAE avait les yeux plus gros que le ventre, pas forcément face à la concurrence, puisque Paul Sexas, quatrième, a concédé près d'une minute, et Juan Ayuso, le double. Dans quelques instants, on revient sur ces différentes performances. Avant de vous consacrer notre dernier quart d'heure, chers auditeurs, puisqu'en nous appelant au 32-16, vous pourrez poser vos questions à nos consultants, les Jérôme Coppel et Pinault, et Richard Virenque. Mais tout de suite, retour sur cette journée mouvementée, et ce final tout en rebondissement au plateau de Solaison.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Les Alpes, nous voilà pour la 15e étape de ce Tour de France, la haute montagne, avec une arrivée au sommet classée en hors catégorie.
Ça se passe quelque chose dans le peloton?
On va dire en arrière pour mon pari.
Oui, parce que
le vainqueur est dans le groupe.
Ah, bien sûr. Parce qu'à l'instant, Lévis-Malisebaek viennent de récupérer Bruno Armirail dans une partie très roulante et ils sont 5 devant Jonas Vingegaard à rouler pour revenir éventuellement.
La course, elle est finie avec Tadej Pogacar.
Oui, oui.
Vingegaard, faut qu'il fasse sa course comme si Pogacar n'était pas là pour essayer de distancer Evenepoel, ouais. Sexas, Lipovic, Ayuso, etc. Il y a en fait, on a 3 courses en une.
Et Vingegaard par terre, Vingegaard par terre.
Il y a du monde.
Il est touché, Jonas Vingegaard. Oh, peut-être qu'on va avoir une très mauvaise nouvelle. Il se touche la clavicule. Jonas Vingegaard qui est au sol avec des équipiers dans ce virage. Isaac Del Toro également au sol qui lui semble se relever. Isaac Del Toro qui va essayer de repartir. Équipier. Mais je crois que pour Jonas Vingegaard, c'est terminé. Ce tour est en train de se terminer pour Jonas Vingegaard dans ce virage. Terrible image.
Attention dans le groupe maillot jaune. Accélération de Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar qui prend la barre avec Isaac Del Toro dans sa roue, avec Remco Evenepoel, avec Paul Sexas. Ça va encore accélérer très certainement. On va surveiller les chronos. Attention à Paul Sexas qui est légèrement décramponné. Il y a un petit groupe. Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel. C'est dur pour Juan Ayuso qui va recoller. C'est dur également pour Lipovic.
Il n'arrive pas à suivre Kim Simons qui a fait toute l'étape devant. Donc l'Espagnol est bel et bien in trouble, comme on dit en anglais.
RMC, la flamme rouge.
Attention, au démarrage d'Isaac Del Toro, c'est ça qu'il avait dit. Très certainement, et Remco Evenepoel qui va réagir. Et Tadej Pogacar qui va aller se placer en troisième position. Tadej Pogacar qui va peut-être revenir et qui va être obligé de la gagner. S'il ne démarre pas Tadej Pogacar, c'est Remco Evenepoel qui va gagner cette étape. On n'est plus très loin de l'arrivée, on est à 350 mètres. C'est parti pour Remco Evenepoel, le sprint de Remco Evenepoel, c'est lui qui va gagner. À moins que Tadej Pogacar n'arrive à le sauter sur la ligne. Remco Evenepoel qui joue un drôle de tour à Rouilleul. Attention, il sera soit Tadej Pogacar, c'est pas terminé. Il est bien Tadej. Non, c'est pour Remco. Remco, la victoire belge. Les UAE se sont fait piéger aujourd'hui. Victoire de Remco Evenepoel devant Tadej Pogacar et Isaac Del Toro. Bravo monsieur, bravo Remco.
RMC, l'After Tour.
Quelle journée, mamma mia, que de rebondissements. Toute l'équipe de l'After Tour est rassemblée pour analyser cette 15e étape avec Christophe Cessieux et nos consultants Richard Virenque, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Toujours évident de hiérarchiser les informations quand il se passe beaucoup de choses. Richard, quelle est selon toi la plus importante de cette journée?
C'est la chute de Vingegaard qui tombe et pour le spectacle, pour la course, pour le stress, tout ça, ça casse un peu ce tour. C'est un peu la douche froide quoi. Même si après on s'est enthousiasmé dans la dernière ascension, c'est beaucoup d'humanisme. J'étais touché aussi par l'humanisme de Pogacar à l'arrivée. Son attitude, il aurait pu gagner, mais il voulait pas gagner alors que son adversaire numéro un était à terre. Donc il y a eu beaucoup d'humanisme et pour Pogacar, je pense qu'il montre en tout cas beaucoup de choses derrière ce grand champion, mais très touché par la chute de Vingegaard.
Et oui, et c'est Comme toi, Richard, on s'est dit, c'est l'info de cette journée. On commence par évoquer effectivement donc l'abandon de Jonas Vingegaard, qui ne sera pas au départ mardi. Et on sent que ça peine de nombreux suiveurs du Tour de France, Jérôme Coppel.
Bah oui, bien sûr, quand tu perds le deuxième meilleur coureur du Tour, ça peine forcément. Et même si certains l'aiment pas ou lui reprochent son manque de panache, etc., je crois que ce soir, tout le monde est un peu triste de la chute de Vingegaard, parce que en plus, avant la chute, ils avaient mis une stratégie en place, on s'attendait peut-être à quelque chose. Donc ils avaient une idée derrière la tête, même si on se faisait pas d'illusions par rapport à Pogacar, il avait en tout cas pas lâché l'affaire de peser sur la course. Et puis nous, on aime bien voir les coureurs se battre à la régulière et pas perdre un coureur par rapport à une chute. Malheureusement, ça fait partie du vélo, mais on n'aime pas voir des coureurs partir sur chute.
C'est la chute de Pogacar, c'est la chute d'une équipe, parce que tu le disais, Jérôme. Pardon, de Vingegaard, lapsus. La chute de Vingegaard et la chute d'une équipe. Parce que quand on regarde les classements, bah, Piganzoli est 18e à 5 minutes, Jorgensen et Kuss 40e et 41e à 21 minutes. Cette équipe-là, elle va avoir une toute autre course, Jérôme, aujourd'hui à faire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il reste une belle semaine.
Ouais, je dirais que dans leur malheur, ils ont la chance d'avoir demain une étape de repos qui va pouvoir peut-être leur permettre de faire retomber tout ça et d'établir un dernier plan pour la dernière semaine, même si...
Et qu'est-ce que ça peut être, quoi, le plan?
Ça va être vers Voiron, peut-être vers Orsière-Merlette. Ils ont quand même un Piganzoli, un Sepkus, un Jorgensen, essayer de jouer les étapes. Maintenant, il va y avoir aussi un débrief, parce que j'ai croisé Nicolas Roche dans les paddocks, et on a regardé ensemble, parce que Nicolas m'a dit que l'erreur venait peut-être de Kampenaerts lui-même. Et en fait, effectivement, il prend cette trajectoire extérieure avec une double trajectoire, on va dire, et il emmène Jonas Vingegaard vers l'extérieur, ce qui oblige le Danois à freiner très fort. Est-ce qu'ils sont passés trop vite? Ont-ils pris la bonne trajectoire? Il y a peut-être une erreur de leur part. Donc, en plus de la déception d'avoir perdu leur leader, si en plus ils s'aperçoivent qu'ils ont peut-être fait une boulette, ça va être très dur la fin du tour pour Vingegaard et pour Visma Lusebike.
Richard, tu l'as vu aussi ce virage. Moi, j'ajoute une donne. Alors, du côté de l'ASO, on dit ils allaient très vite, certes. D'habitude, ces moments-là où on sait que c'est un peu dangereux, il y a souvent un drapeau jaune avec un gendarme qui signale. Et là, on a le sentiment qu'ils arrivent sans avoir cette information-là.
Je pense qu'il devait y avoir ce drapeau jaune, comme toujours. Le problème, quand il y a une équipe qui tire comme ça, c'est le premier coureur. Si le premier coureur emmène tout le monde dans le trottoir, le premier et le deuxième va éviter le trottoir. Mais celui qui est derrière, il est obligé de freiner un grand coup. Aujourd'hui, on a des freins à disque. Les freins à disque, on met un coup de patin, on passe par-dessus. Et là, ce qui s'est passé, Vingegaard, il a freiné trop fort, il a glissé sa roue avant, et il a freiné très fort sur une bande blanche, et il est tombé. Donc, c'est sûr que le premier coureur, c'est lui qui s'est mal engagé, parce qu'il y avait deux passages. Un premier passage à serrer à la corde, et un deuxième passage plus loin. Et donc, il y a eu une faute technique de celui qui amène le peloton. Et c'est sûr que c'est les Visma. Les Visma sont fautifs de ça. En plus, le seul qui tombe, le premier qui est tombé, c'est Vingegaard qui est tombé. C'est lui le premier qui est tombé. Alors, parce que peut-être il était pas assez relâché. Après, on a entendu des choses aussi par rapport au contrôle. Ils l'ont levé à 2h du matin. Oui, mais bon, imaginez quelqu'un qui récupère dans la nuit, on le réveille à 2h du matin, c'est la nuit de sommeil est super important pour la récupération. Donc à un moment donné, il avait pas peut-être toutes les bonnes, on va dire, réflexes, attitudes de récupération, et un petit truc, et ben voilà, on se retrouve par terre. Donc c'est sûr que c'est le premier coureur qui est parti, on va dire, emmener toute son équipe dans le trottoir.
Christophe, il y a aussi un élément, c'est que les suiveurs du Tour se disent ça tombe un peu toujours sur lui, parce qu'on se rappelle de cette chute très importante autour du Pays Basque.
Ouais, terrible, c'était en 2024 dans ce Tour du Pays Basque, dans une descente, un virage à droite là aussi, où tout le monde était parti dans la forêt pour certains, notamment Remco Evenepoel qui s'était gravement blessé lui aussi, mais le plus sérieusement touché avait été Jonas Vingegaard. On avait eu très peur ce jour-là, très très peur pour lui. On rappelle ses blessures. Blessure, pneumothorax, contusion pulmonaire, fracture à la clavicule, fracture aux côtes. On a eu très peur pour lui ce jour-là, parce qu'on l'a vu, vous vous souvenez sans doute de ces images terribles où il était en position fétale, allongé sur le sol, avec tout le monde autour de lui. Ça avait duré des heures. Et ça a duré, cette blessure, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, des mois et des mois. Il avait tenu quand même à faire le Tour de France en 2024, c'était quasiment un miracle, parce que ça intervenait 3-4 mois derrière sa chute, mais il n'était pas au même niveau. Et là, cette année, il avait retrouvé un semblant de niveau, on l'avait vu notamment sur le Giro, et on pensait que sur le Tour de France, il pourrait s'accrocher à Pogacar, ça n'a pas été le cas.
Et Jérôme Coppel, on peut aussi s'inquiéter sur la suite de la carrière hein, de Vingy. On n'a pas encore toutes les infos forcément sur la blessure.
Mais... Oui, on ne va pas aller trop vite, mais Jonas Vingegaard l'a déjà dit, qu'il avait qu'il réfléchissait à sa fin de carrière, qu'il vieillissait, qu'il avait une famille, etc. Et après la chute que vient d'évoquer Christophe, il y a le retrouver son niveau physique, mais c'est retrouver son état d'esprit aussi, ne plus avoir peur sur le vélo, parce qu'on se rend pas compte à la télé, mais en fait, quand tu descends à 100 km/h, quand tu prends des virages à 80 km/h, quand t'es 180 dans un peloton coude à coude à 60 à l'heure, bah quelque part tu mets un petit peu ta vie en danger aussi. Et à partir quand t'as frôlé, parce que on peut quasiment dire qu'il a, je pense pas exagérer, mais la presse frôlé la mort quand même au Pays Basque, ben psychologiquement t'as des enfants, t'as une famille, t'es revenu une fois, il est revenu sur le Tour, comme a dit Christophe, il a pris la deuxième place, donc psychologiquement il est déjà revenu, physiquement il est revenu, là tu reprends. Alors attention, on annonce une fracture de la clavicule, finalement c'est un moindre mal, c'est presque rien une clavicule pour un coureur cycliste, mais est-ce que mentalement il va avoir envie de reprendre des risques en 2027, en 2028, etc.
Rappelez-vous de ce qu'il disait en 2024 après sa gamelle, il disait j'ai pas pu respirer pendant les 10 premières secondes et déjà je sais que quelque chose ne va pas. Quand je peux enfin respirer, je crache du sang. Je pense que j'ai une hémorragie interne, ce qui signifie que je vais me noyer dans mon propre sang et que je vais mourir. Il a vraiment aussi cet aspect psychologique que tu évoquais, Jérôme. Il a vraiment morflé ce jour-là et retrouvé la confiance. Et là, une nouvelle gamelle, c'est terrible. On rappelle, fracture de la clavicule qui va nécessiter une opération dans les jours qui viennent. Et multiples abrasions, a priori, sa saison est terminée.
On verra si en fin de saison, il peut revenir, mais il n'y a pas de certitude, effectivement. Richard, tu évoquais il y a un instant ce contrôle qui a eu lieu. Je te propose d'écouter Tadej Pogacar, qui lui aussi est revenu sur ce contrôle et peut-être lié à cette chute ensuite.
Yeah, it's really, really, really sad to see.
Oui, c'est vraiment très triste de voir et de savoir que Jonas est out.
Always battling out.
Depuis 2021, on a une belle bataille tous les deux pour la victoire. Peut-être qu'au début, on n'avait pas la meilleure des relations, mais les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Et on a énormément de respect l'un pour l'autre. C'est devenu quasiment un pote.
The tour will not be the same without him.
Oui, le Tour de France ne sera pas le même sans lui.
Interview for France TV today.
Comme je disais tout à l'heure à France Télé, aujourd'hui nous avons eu un contrôle antidopage, lui à 2h du matin. Peut-être que ce manque de sommeil l'a rendu un peu moins lucide, peut-être un peu moins concentré dans les descentes notamment. Et peut-être que c'est peut-être à cause de ça. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être dû à ce contrôle. Oui, c'est très très triste de le voir ainsi.
On précise que Jonas Vingegaard, lui, ce matin, disait, alors c'est sûr, j'ai eu mon sommeil interrompu pendant une quarantaine de minutes, mais ça va bien. Voilà, il se disait reposé. Mais on précise que le logiciel ADAMS, qui est utilisé par l'Agence mondiale antidopage pour le suivi des sportifs, autorise des contrôles entre 5h et 23h. Mais en France, il y a une ordonnance de 2016 qui indique que les opérations de contrôle peuvent avoir lieu aussi entre 23h et 6h. Donc c'est en pleine nuit, là, que ça a été fait. Donc voilà, il y a eu ce contrôle, on le rappelle, à 2h pour l'équipe de Jonas Vingegaard et à 5h pour l'équipe de Tadej Pogacar.
Ouais, comme on en a parlé pendant le direct, moi je trouve ça très bien. Alors très bien pour la lutte antidopage, très bien parce qu'il faut, s'ils ont des doutes, il faut contrôler les coureurs. Par contre, c'est sûr, alors je dis pas du tout que c'est lié à sa chute, mais c'est sûr que sur un Tour de France, ce qui te fait enchaîner les étapes, c'est la récupération. La meilleure des récupérations, ça reste le sommeil. Si ta nuit qui devait déjà être courte parce que fallait descendre du Markstein pour aller jusqu'à Champagnole, donc ils ont dû arriver très tard, plus les massages, plus la nourriture, etc. Si ta nuit et ta récupération est coupée, potentiellement tu peux être moins vigilant et moins alerte le lendemain. Donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'il faut que ça soit régulier, j'allais dire, je sais pas comment on dit, pour tous les coureurs en fait, en tout cas les prétendants équitables. Voilà, faut que ça soit équitable pour tous les coureurs du classement général, parce que sinon ça peut faire faire une vraie différence quand même. Si une fois ou deux t'es réveillé en pleine nuit, ça peut avoir une incidence sur la récupération et la performance. Après, je mettrai pas la chute de Jonas Vingegaard là-dessus, pas du tout par contre.
Non, d'ailleurs, du côté de l'équipe également, il n'y avait pas de polémique à ce niveau-là. Je reprécise juste ce que le code du sport complète ça en disant que quand il y a un contrôle qui est effectué entre 23h et 5h, il doit exister à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition de preuves. C'est-à-dire que ce contrôle, s'il a été fait,
c'est qu'il y avait des soupçons.
C'est qu'il y a des choses qui se trament.
Sur deux quoi ?
Sur deux équipes.
Deux équipes, ouais.
Sur deux équipes.
Bon, il faut savoir qu'en droit pénal classique, les perquisitions et les arrestations à un domicile ne peuvent pas se faire dans la nuit. Il faut attendre 6h du matin et après 21h. Donc là, on considère les coureurs cyclistes comme plus dangereux finalement que des trafiquants de drogue.
C'est des grands bandits, on le sait. Hein, si le monde va mal, c'est
depuis 2016. Hein, ça n'existait pas à votre
époque. Oui, non, mais d'accord, c'est une chose. Alors les soupçons, si c'est. Le soupçon avéré du contrôle et d'un contrôle précédent, qu'on aille voir très vite si dans la nuit qui suit ou deux nuits après qui suit, il n'y a pas un problème. D'accord. Si c'est le soupçon, c'est l'opinion publique qui trouve qu'il domine.
La rumeur.
C'est un peu dommage. Juste à dire aussi à tous ces crétins qui disent qu'il est tombé exprès parce qu'il veut fuir le tour parce qu'il a eu un contrôle cette nuit.
Non.
Changer de chaîne.
T'as entendu ça?
Ah, c'est marqué partout sur mon Instagram et partout sur les réseaux sociaux. Il faut juste rester à peu près sensé et
là. Oui, là en fait, on rappelle
pas la place pour la
rappelle le cadre.
Non, voilà,
on rappelle le cadre.
Juste qu'un coureur est tombé, qu'il est fracturé, qu'il va quitter le tour, que c'est sa vie, sa préparation, qu'il passe longtemps, très longtemps, loin de sa famille. Il est tombé. Peut-être était-il moins lucide parce que ça roulait vite, mais absolument pas parce qu'il a dormi une heure de moins. Ça, c'est une certitude.
Non, mais là. Voilà, on rappelait le cadre, que tout le monde sache bien ce qui s'est passé cette nuit et ce que dit la loi. Voilà.
Ce que dit la loi, c'est important. Pierre-Yves, je suis d'accord avec toi, mais...
Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.
Allons plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, soupçon ? Explique-nous. On a eu tout à l'heure un intervenant pendant l'émission sur le groupe WhatsApp qui nous dit « Ouais, bah, lorsque ça me fait rire de vous entendre. » Bah, appelez.
Un ancien contrôleur. Hein.
Oui, mais appelez-nous, dites-nous.
Bah, 32-16, nous, on 32-16 sait pas, si vous voulez poser des questions.
Si les gens savent que Vingegaard et Pogacar se dopent, bah, dites-les-nous. S'ils ont des preuves.
Prouvez-le.
Eh bien, 32-16, je vous le redonne. 32-16, vous, à partir de 19h45, tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions à nos consultants. L'autre info importante, évidemment, c'est la victoire de Remco Evenepoel, parce que la course s'est relancée. Il y a eu un petit peu de flottement pendant quelques instants, et puis la course s'est relancée ensuite avec Remco qui a réussi à... Bah, dompter les UAE. Alors ça, on s'y attendait pas. D'une part, que ça soit Remco et qu'en plus les UAE soient piégés. Vous avez été surpris, Jérôme Pinot, j'imagine.
Ah oui, moi j'aurais pas parié sur une victoire de Remco aujourd'hui. Encore moins suite à ses dernières prestations sur des pentes certes raides, mais beaucoup moins longues. J'avais plutôt misé sur un coup d'éclat aujourd'hui, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt d'un Remco en difficulté aujourd'hui. Peut-être pas dans le Salève, même si on a eu les premières images dans le Salève, on le voyait très à l'aise, mais dans le plateau de Solaison, je pensais qu'il allait perdre du temps sur l'état des Pogacar, sur les pôles Sexas, et aujourd'hui, il a été, on peut le dire, phénoménal. Hein. Mm-hmm.
Jérôme, il a été impressionnant.
Oui, il a été impressionnant. Son équipe aussi. Ils ont parfaitement manœuvré aujourd'hui. Je pensais même qu'il allait. Alors moi, déjà, je suis très content qu'il ait gagné par rapport à la stratégie de UAE. On y reviendra peut-être plus tard.
On va y revenir, effectivement.
Mais déjà, rien que pour ça, je suis content. Je suis content qu'il m'ait fait taire aussi. Et
on va y revenir aussi.
On y reviendra aussi. Mais aujourd'hui, il y a. J'étais un peu d'accord avec GG. Moi, je pensais qu'il allait un peu coincer aujourd'hui, et c'est même tout l'inverse qu'il a montré. Il a pas montré un seul signe de défaillance. Il était même plutôt à l'aise, peut-être même le deuxième plus fort de la course. On le saura jamais. Il a gagné l'étape, mais on sait pas ce qu'aurait fait Tadej Pogacar. Voilà, bah c'est bien. Ça ramène un petit peu pas de suspense pour la victoire finale du Tour. Il y en avait déjà plus, mais pour le podium en tout cas.
Richard, il a été impressionnant aujourd'hui, Remco Evenepoel. On l'attendait pas forcément à ce niveau, sachant qu'en plus il y avait quelques tensions dans l'équipe, surtout sur des plateaux comme ça, comme Solaison, sur des vraiment des cols difficiles.
Oui, exactement. Il a été aérien, il était très fort. Il a montré dans son équipe que c'était lui le boss aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Et tout au long de la course, que ça soit dans le Salève, la montée du Salève, on le voyait, il respirait par les narines, même pas la bouche ouverte. Il était très aérien. Et dans la dernière montée finale, il était aussi très facile. Donc il a été récompensé, on va dire, par rapport à sa volonté de vouloir réussir en montagne. Je pense qu'il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Mais bon, là encore, à l'arrivée, si Pogacar n'est pas endeuillé par, on va dire, la victoire, je le comprends, Pogacar, qu'il a pas vu. Il voulait tel Del Toro gagne, ça c'est sûr. Les UAE voulaient à tout prix gagner. Mais voilà, donc Remco a bénéficié, on va dire, que du deuil de Pogacar pour rester dans la roue. Mais c'est une belle victoire pour lui parce que ça l'encourage, tout ce qu'il a fait dans le passé de travail pour s'améliorer en haute montagne, parce que là il gagne une étape de haute montagne. Donc chapeau, non vraiment, il le méritait quand même, sa victoire.
Et on verra s'il va réussir à progresser, Christophe.
Oui, on rappelle que c'est la première fois que Remco Evenepoel remporte une étape en ligne du Tour de France. Jusque-là, il avait deux succès, deux contre la montre, mais il ne s'était jamais imposé dans une étape en ligne. Il avait été souvent lâché, même s'il avait fait des trois, des quatrièmes places. Mais à chaque fois, en haute montagne, il prenait des éclats. Là, c'est la première fois qu'il s'impose. Sur le Tour d'Italie, il a également remporté des étapes en contre la montre. Il n'y a que sur la Vuelta où il avait remporté des étapes de montagne lorsqu'il s'était imposé en 2023.
On l'écoute. Remco Evenepoel, vainqueur aujourd'hui à Solaison.
Je m'attendais plus vraiment à une attaque d'Isaac, mais il a accéléré dans la dernière partie la plus raide. C'était une attaque très violente, puis il est reparti à environ 400 mètres de l'arrivée, et au final c'était presque le scénario idéal pour lancer mon sprint. J'ai simplement essayé de conserver mon élan et de pousser le plus fort possible jusqu'à la ligne. Remporter une étape aussi prestigieuse, c'est incroyable. J'ai gravi cette montée une vingtaine de fois à l'entraînement, alors gagner ici a une saveur toute particulière, et partir en journée de repos avec une telle victoire, c'est tout simplement fantastique. With this feeling.
Jérôme, tu avais une question pour Richard.
Oui, parce qu'en fait, je trouve que Richard, à l'époque, quand tu étais face à Jan Ullrich, par exemple, tu savais qu'il fallait lui mettre des à-coups pour le faire décramponner. Il fallait lui faire changer de rythme à l'allemand pour essayer de le mettre en difficulté. Et on sait qu'aujourd'hui, Remco, il a aussi bénéficié de ça. Alors, effectivement, il était aérien, comme tu dis. Il a été très costaud. Mais on va dire que depuis le pied, la montée, Richard, elle a été parfaite pour Remco parce que c'est Poggi qui lui a fait le train, en fait.
Oui, tout à fait. Mais pourquoi? C'est à cause de Del Toro. Puisque Del Toro est pas à son maximum, mais très fort. Mais l'envie de Pogacar, c'est d'amener Del Toro sur le podium et de décrocher tout le monde. Si Pogacar part comme un avion, personne le suit. Donc ça, c'était pas la bonne tactique. Et t'as raison. La montée s'est faite. C'était à la perfection pour Remco. Et c'est pour ça qu'il a été, on va dire, super. Et même à un moment donné, il s'est pris à prendre des relais avec, parce que le rythme lui convenait et Del Toro était à sa pogne. Donc après, Del Toro, à un moment donné, ils lui ont dû lui dire: bon, maintenant, si tu veux gagner, c'est à toi d'y aller. Mais c'était des pétards mouillés, entre guillemets. Et là, il est allé le chercher, et après, au sprint, il avait une puissance beaucoup plus supérieure. Donc oui, tout à fait, je reconnais dans ce que tu dis.
Et on verra si la semaine prochaine il est capable de suivre aussi, si c'est à son rythme ou si ça monte un peu trop vite.